La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Plus de 3 semaines après l'investiture de Félix Tshisekedi comme président de RDC, le pays n'a toujours pas de nouveau gouvernement. Pourquoi le chef de l'État met-il autant de temps à constituer son équipe? À quoi ressemblera la probable future coalition au pouvoir et qui pour la diriger? Que signifient les longues accolades que se sont données dimanche dernier Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila face à un Joseph Kabila dont le FCC est largement majoritaire à l'Assemblée, quelle est la marge de manœuvre du nouveau président? Donnez-nous votre avis, appelez-nous au 33 9 693 693 70 ou sur WhatsApp au 33 6 89 28 53 64. Mais d'abord, comme chaque matin, place à vos questions sur l'actualité, questions à la rédaction de RFI. Malangue, bonjour.
Oui, bonjour Chantal.
Vous nous appelez de Tabacounda au Sénégal et vous avez des questions sur le report des élections au Nigeria. On vous écoute.
Oui, oui. Ces jours passés, le Nigeria...
Des élections, oui, les élections devaient se tenir le 16 février au Nigeria. Et donc...
Voilà, oui. Mais, oui, il y avait un problème de logistique.
Alors, il y a eu un problème de logistique. En tout cas, c'est ce qu'a invoqué la commission électorale pour justifier un report surprise des élections. Pourquoi avoir attendu le jour J pour reporter ces élections? C'est la question, je crois, qui vous préoccupe, hein, Malangue. Et nous avons en ligne de Lagos notre envoyé spécial au Nigeria, Binta Diagne. Bonjour.
Bonjour.
Binta, on a rarement vu une annonce de report d'élection aussi tardive. Alors, comment expliquer cette décision un peu étonnante de la commission électorale?
Alors, le président de la commission électorale assure que cette décision a été prise vraiment effectivement à la dernière minute, que rien n'était prévu par avance. Pour rappel, la commission électorale avait convoqué une réunion d'urgence vendredi soir, donc la veille de l'élection présidentielle. Et c'est à l'issue de cette réunion que la commission électorale a estimé que finalement les conditions n'étaient pas réunies pour assurer un scrutin libre, crédible et transparent. D'où cette lourde décision de repousser le vote d'une semaine, même si cette décision, le président de la commission l'assure, a été prise vers 2h30 du matin.
Et pour dimanche prochain, est-ce que tout sera prêt?
Alors là, c'est vraiment pas évident de le dire, hein. Les délais sont vraiment très très courts. Une semaine, c'est court. La commission électorale a dû d'abord réceptionner le matériel électoral qui avait déjà été positionné près des centres de vote. Ce matériel est aujourd'hui stocké au siège de la Banque centrale du Nigeria à Abuja. Ensuite, il faut s'imaginer que 72 heures avant la reprise, donc avant le jour du vote, il faudra redistribuer tout ce matériel aux quatre coins du pays pour pourvoir 120 000 bureaux de vote. Autre détail, et non des moindres, la commission électorale est censée réinitialiser 180 000 lecteurs de cartes nécessaires pour identifier les cartes d'électeurs. Donc je vous rappelle que c'est quand même un vote biométrique. Et pour que ce vote biométrique puisse fonctionner, il faut pouvoir vérifier la validité des cartes d'électeurs. D'où ces lecteurs de cartes qui, eux, doivent être remis à jour avant le jour du vote. Une chose est sûre, samedi, face à un parterre de journalistes et de leaders politiques, le président de la commission électorale a dit que ce report serait le dernier que le pays devrait connaître.
Malangue, est-ce que vous avez une autre question pour Binta Diagne?
Oui. L'autre, c'est qui est-ce que un délai d'une semaine est suffisant pour organiser des élections?
Oui, c'est la question à laquelle Binta vient de répondre. Binta, comment réagit la société civile face à cette annonce alors que la population s'apprêtait dimanche dernier à aller voter?
Alors, comme tout le monde, la société civile était en colère, hein, puisque de nombreux observateurs ont été mobilisés pour observer ce scrutin. Il faudra de nouveau les réunir samedi prochain. Ensuite, autre réaction très très critique, hein, finalement. Elle dit qu'il y a un manque de management, manque d'organisation. La société civile décrit une commission électorale dépassée par l'ampleur de ce scrutin, qui inclut quand même 84 millions d'électeurs. C'est un chiffre record pour une élection au Nigeria. Pourquoi donner autant d'assurance alors que le scrutin se tient à date échue, tout chamboulé à la dernière minute? Donc jusqu'à présent, le président de la commission électorale avait toujours assuré que le scrutin se tiendrait à temps. Ça a beaucoup offusqué en fait la société civile. Elle demande aujourd'hui beaucoup plus de transparence sur chaque étape du processus électoral qui va être conduit cette semaine. Interrogation enfin sur la sécurité du matériel électoral, avec en toile de fond une inquiétude, le fait que la crédibilité du scrutin puisse être entachée par d'autres difficultés.
Merci beaucoup Binta Diagne pour ces explications. On continuera à suivre vos reportages au Nigeria sur l'antenne de RFI. Malang, bonne journée à Tabakunda. On part maintenant pour Abidjan, d'où nous appelle Armand. Bonjour.
Oui, bonjour.
Armand, on vous écoute.
Oui, il y a peu de temps, trois membres du service de renseignement du président Bachar al-Assad en Syrie, soupçonnés de crimes contre l'humanité, ont été interpellés en Allemagne et en France au nom du principe de la compétence universelle. Alors ma question, pourquoi cette opération conjointe entre la France et l'Allemagne a-t-elle ciblé les trois Syriens?
Alors, pour vous répondre, Armand, Pascal Thibault est en ligne de Berlin. Bonjour, Pascal.
Oui, bonjour, Chantal. Bonjour, Armand.
Vous êtes notre correspondant bonjour, en Allemagne. Chantal. Donc, qu'est-ce que l'on sait, Pascal, sur cette opération franco-allemande?
Ben, ce qu'on reproche à ces trois Syriens, c'est d'avoir été des membres des services de renseignement de Damas et d'avoir pratiqué des tortures, notamment contre des prisonniers politiques dans les geôles syriennes au début de la décennie, avant que ces personnes ne décident de quitter le pays et de gagner l'Europe pour la France, pour deux d'entre eux, et pour l'Allemagne, pour deux d'entre eux, pardon, et pour la France, pour le troisième. Et donc, cette équipe commune entre la justice allemande et la justice française a enquêté et a donc la semaine dernière arrêté ces trois hommes. D'autres, d'après les informations dont on dispose, sont aussi dans le collimateur de la justice, mais les opérations n'ont pas encore eu lieu pour les arrêter.
Armand, vous avez une autre question à poser à Pascal Thibault?
Oui, en effet. Mais comment cette enquête a-t-elle été menée dans la mesure où les crimes qui leur sont reprochés ont été commis à l'étranger?
Pascal.
Effectivement, normalement, il y a une compétence internationale, soit par la Cour internationale de justice de La Haye, mais au statut de laquelle la Syrie n'a pas adhéré, ou bien on a vu aussi qu'à l'ONU, la Russie a opposé son veto au Conseil de sécurité à des procédures. Donc, il reste un autre moyen juridique, c'est-à-dire le droit international, qui permet de poursuivre des personnes pour crimes contre l'humanité, même si ces personnes ne sont pas ressortissantes du pays qui mène les poursuites, et si les actes dont il s'agit n'ont pas été commis sur le sol de ce pays, ce qui est le cas évidemment dans ce cas pour la France et l'Allemagne. C'est donc ce moyen juridique qui a été utilisé par la justice des deux pays, la France et l'Allemagne, pour mener ces poursuites. Il faut aussi préciser que ces poursuites ont été facilitées par le fait que des Syriens réfugiés en Europe ont reconnu leurs anciens bourreaux et ont donc témoigné et permis à la justice également de mener cette enquête jusqu'aux arrestations de la semaine dernière.
Merci beaucoup Pascal Thibault pour ces explications. Bonne journée à Berlin. Armand, continue à nous écouter à Abidjan et bonne journée à vous. Les cigarettes suisses font un tabac en Afrique. C'est le titre d'une enquête récompensée par l'ONG Public Eye et que vous avez signée. Marie Meurice, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante et Maki, qui nous appelle de Conakry en Guinée, a une question pour vous. Bonjour Maki.
Oui Chantal, bonjour et bonjour à tous.
Allez-y Maki, on vous écoute.
Alors, comme vous venez de le noter, Chantal, un récent rapport d'une ONG sur le tabac déplore donc les différences entre la cigarette vendue en Afrique et celle vendue en Europe, hein, qui serait moins toxique. Alors Chantal, d'abord j'aimerais connaître les raisons pour lesquelles les industriels européens, notamment suisses, ont décidé de faire des cigarettes plus toxiques pour l'Afrique.
Marie Meurice, fumer en Europe tue, mais fumer en Afrique tue encore plus. C'est ce que démontre finalement votre enquête.
Oui, c'est ça. J'ai fait analyser des cigarettes suisses vendues au Maroc et celles-ci sont plus chargées en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone que les cigarettes qu'on fume ici en Suisse. Alors, officiellement, les fabricants disent pas qu'elles sont plus toxiques. Hein. Ils disent que les Africains ont un goût différent des Européens et qu'ils préfèrent des cigarettes plus fortes, évidemment. Ce qui est particulier comme raison invoquée. Dans mon enquête, j'ai découvert qu'en fait, ces fabricants de cigarettes ont vraiment besoin de trouver de nouveaux clients, de nouveaux consommateurs, parce que les les fumeurs des pays les plus riches en Europe, aux États-Unis, arrêtent de fumer. Et du coup, les fabricants de cigarettes ont des gros problèmes financiers. Alors, pour compenser la perte de fumeurs dans les pays riches, ils visent les pays en développement, notamment le continent africain, pour trouver de nouveaux clients. Et puis, trouver de nouveaux clients en Afrique, il faut séduire les fumeurs. Et pour les séduire, en fait, on charge un peu plus les cigarettes. Un jeune fumeur, par exemple, un adolescent ou un jeune étudiant en Afrique sera plus vite dépendant de la cigarette si celle-ci est plus chargée en nicotine. Alors voilà un peu, je pense, les raisons des fabricants pour plus charger les cigarettes qu'ils vendent en Afrique.
Et pour compléter ce que vous dites, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, estime à 77 millions le nombre de fumeurs en Afrique, et ce chiffre pourrait grimper de 40% d'ici à 2025. L'Afrique est donc effectivement un marché porteur pour les industriels suisses du tabac. Marie Meurice, est-ce que votre enquête a fait du bruit en Suisse? Est-ce qu'elle a fait bouger les lignes? Parce qu'elle révèle quand même un incroyable cynisme des industriels du tabac à l'égard des Africains.
Oui, c'est le double standard. Hein. Alors, il y a un public pour lequel les cigarettes sont moins toxiques et l'autre public pour lequel elles le sont plus. Il n'y a pas de raison de faire comme ça. En fait, en Suisse, pour l'instant, ça n'a pas énormément fait bouger les lignes. Et pourtant, il y a la loi sur les produits du tabac qui est en révision au Parlement suisse en ce moment. Donc, j'espère que cette enquête fera un petit peu mobilisera les parlementaires. Pour le moment, dans la mesure où c'est quelque chose qui n'est pas illégal, les fabricants font des choses tout à fait légales en faisant ça, donc personne n'est monté au créneau jusqu'à maintenant.
Maki, est-ce que vous avez une autre question pour Marie Meurice?
Oui, Chantal, en effet. D'abord, quelles sont les mesures qui sont prises par les pays africains pour réduire la consommation de ces cigarettes particulièrement toxiques? Et aussi, pour terminer rapidement, peuvent-ils se retourner contre ces cigarettiers?
Marie Meurice, la balle est dans le camp des pays africains maintenant?
Oui, c'est une question qui est intéressante et fondamentale, évidemment. Il y a très très peu de pays africains qui ont réglementé la toxicité maximale des cigarettes. Vous ne savez peut-être pas, mais en Europe, il y a une loi qui dit que la cigarette ne peut pas contenir plus de 10 mg de goudron par cigarette, 10 mg de monoxyde de carbone et 1 mg de nicotine par cigarette. Il y a une loi et les fabricants doivent la respecter. En Afrique, il n'y a pas du tout ça. Ça veut dire que les cigarettes qui sont vendues sur le continent, il n'y a pas de loi qui limite leur teneur maximum dans ces substances. Donc la seule solution, c'est que les pays africains fassent la même chose que le continent européen et mettent des lois pour dire aux fabricants, vous n'avez pas le droit de mettre plus que tant de goudron, tant de nicotine et tant de monoxyde de carbone dans nos cigarettes. Et ça, très peu de pays africains l'ont fait à ce stade et je pense que c'est le prochain combat.
D'où le rôle primordial des ONG pour pousser les pays africains à adopter des normes de protection à l'égard des populations?
Oui, c'est sûr, il y a les associations de lutte contre le tabac qui sont quand même très actives selon les pays sur le continent africain. Le problème, c'est que mettre en place une loi, et après il faut la faire respecter, c'est-à-dire qu'il faut se doter des moyens pour l'appliquer et pour vérifier que les cigarettes qui circulent dans le pays sont conformes à la loi. Donc évidemment, ça demande un petit peu de moyens, et ça, c'est ce qui manque cruellement dans certains pays d'Afrique.
Merci Marie Meurice. Maki, j'espère que vous êtes satisfait.
Très bien, merci, c'était parfait.
Bonne journée.
Merci
à vous.
Merci à vous. Au revoir,
bonne journée. On va terminer cette première partie d'appel sur l'actualité avec Aruna qui nous appelle de Ouargaï au Burkina Faso. Bonjour.
Bonjour Chantal.
Simon Rosé, notre spécialiste de l'espace, m'a rejointe en studio. Simon, bonjour.
Bonjour.
Aruna, on vous écoute.
Oui, bonjour. Il faut dire que le 13 février, la NASA annonçait l'arrêt de sa mission Opportunity sur Mars. Je voudrais comprendre. Comment expliquer une opportunité arrivée en 2004 sur Mars et dont la mission devrait avoir lieu dans 90 jours, soit restée aussi longtemps sur Mars malgré les difficultés techniques?
Voilà, alors Simon, pourquoi le robot Opportunity est-il resté aussi longtemps sur Mars?
Bon, déjà un petit mot sur c'est quoi Opportunity. C'est un robot que la NASA a envoyé donc sur Mars s'est posé sur la planète rouge au début de l'année 2004. C'est ce qu'on appelle un rover, un astromobile en bon français si on utilise le langage de l'Académie française. Un robot avec des roues qui peut se déplacer. Et comme le disait Aruna, en effet, il devait durer 90 jours. Sa mission devait durer 90 jours. Ça aurait été finalement plus près des 15 ans, ce qui est une belle performance. Bah, tout simplement parce que c'était une belle machine, hein, quand on construit des missions comme ça. on est assez pessimiste, on donne des objectifs assez bas pour toujours se permettre d'avoir une bonne surprise après si la machine tient bien le coup. Donc Opportunity a bien été conçu, a bien été construit, donc il a relativement bien tenu le coup sur Mars. Après, il a eu des problèmes techniques une fois sur la planète rouge. Ses roues se sont enlisées, à la fin il y en avait une qui était très abîmée. Il a eu des problèmes comme ça, mais les ingénieurs de la NASA ont en sol une réplique parfaite du robot, ce qui leur permet, quand ils ont un problème là-haut, de faire des tests déjà sur Terre pour voir ce qu'ils peuvent faire avant d'envoyer des instructions vers le robot qui se trouve sur la planète Mars pour essayer de résoudre un peu les problèmes. C'est arrivé plusieurs fois. Finalement, bon, le temps a eu raison d'Opportunity. C'est une tempête de sable géante, comme il peut y avoir sur Mars. Il y a des tempêtes de sable qui recouvrent toute la planète. Il fonctionnait par panneau solaire, donc il s'est mis en veille pour encaisser le coup. Et là, cette fois, il s'est pas réveillé, malheureusement. Il faut savoir que Opportunity avait un jumeau qui était envoyé en même temps que lui, qui s'appelait Spirit. Lui était moins endurant puisqu'il a atterri en 2004 également. Il s'est arrêté en 2010. 6 ans quand même, c'est pas mal, alors qu'il devait tenir 90 jours lui aussi.
Quelle est l'information la plus importante que nous est transmise le robot Opportunity ?
On sait que Mars, grâce à Opportunity, on sait que Mars a eu des océans, a eu des rivières dans un lointain passé, ce qui n'est pas anodin. C'était une planète habitable il y a plusieurs milliards d'années. Opportunity, c'était une mission de géologie. Le but, c'était d'analyser des roches. On a notamment trouvé ce qu'on appelle des hématites, qui ont la particularité de se former que quand il y a de l'eau. Et Opportunity, on a découvert pas mal sur Mars, donc qui indique qu'il y avait des régions qui étaient complètement noyées sous de l'eau dans le lointain passé de Mars.
Aruna, vous avez une autre question pour Simon ?
Oui, je voudrais également savoir, la fin d'Opportunity sur Mars signifie-t-elle la fin des missions de robots sur Mars ?
Non, parce qu'il y a déjà un autre robot en ce moment qui est sur Mars, c'est Curiosity, qui est de la NASA également. Lui, il risque pas d'avoir de problème de panneaux solaires parce qu'il n'en a pas. C'est un petit réacteur nucléaire qui le fait fonctionner. Il a atterri en 2012 sur la planète rouge. Curiosity, en plus, c'est une belle machine, hein. C'est vraiment la taille d'une petite voiture. Il y en a deux autres qui vont arriver en 2020. Un autre américain qui s'appelle Mars 2020. Ils sont pas beaucoup foulés pour le nom, qui est un peu le sosie de Curiosity. Et une mission européano-russe qui s'appelle ExoMars 2020, pareil, où on va poser un rover, donc un robot qui peut se déplacer. Rosalind Franklin, c'est son nom, du nom de la co-découvreuse de l'ADN. De l'ADN, pourquoi on fait ce clin d'œil ? Parce que c'est un robot qui va chercher des preuves de vie sur Mars.
La grande question.
Comment est-ce qu'on fait ? C'est que Mars n'est plus protégée par une atmosphère. Aujourd'hui, elle est très ténue. Elle a plus de champ magnétique. Donc, le sol de Mars est complètement grillé par le soleil. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher en sous-sol. Donc, Rosalind Franklin, ce robot, aura une foreuse capable d'aller chercher jusqu'à 2 mètres de profondeur, prendre des échantillons et les analyser ensuite dans un petit laboratoire qu'il y aura à l'intérieur du robot. Donc, tout ça, ces deux missions, c'est 2020. Après, il y en a une autre qui va partir, qui est encore à l'état de projet, qui est très compliqué, ce qu'on appelle MSL, c'est Mars Sample Return, retour d'échantillons martiens. Le but, c'est de confier à Mars 2020 la charge de récolter des échantillons, et une autre mission ira plus tard les chercher pour les ramener sur Terre pour qu'on puisse les étudier. En attendant, bien sûr, un jour, une mission humaine sur Mars.
Là, à quel horizon ?
Bien malin qui peut le dire. Allez, si je devais mettre une pièce, fin de la décennie 2030, début 2040, si ça se passe bien.
Encore un mot, Simon. Opportunity aura pris plus de 217 000 photos et on peut en voir une grande partie sur le site de la NASA.
La NASA est une agence publique, donc toutes les photos prises par leur mission sont publiées sur leur site deux jours après. Elles sont confiées aux scientifiques pendant deux jours et après elles sont toutes publiées sur le site de la NASA. Une recherche sur Internet, NASA Opportunity, et vous allez tomber sur le site. Il y a de très 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 beaux clichés. Hein.
Qu'est-ce qu'on y voit par exemple ?
Opportunity a découvert la première météorite tombée sur une autre planète, donc on la voit. Des panoramas de Mars qui sont complètement incroyables. Les photos de Curiosity aussi sont... toutes les missions martiennes de la NASA, elles sont toutes disponibles sur le site, toutes les photos, et ça vaut vraiment un coup d'œil.
Alors, merci beaucoup Simon pour ces explications. Aruna, bonne journée à Wargaï, et donc précipitez-vous sur le site de la NASA si vous voulez voir des photos de la planète rouge. On va faire une pause, le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour parler de la RDC.